2. Lord Tchoudalia. De Neptunus et de Glaucus me plains qui contre moi font la mer Félonesse. Eustache Deschamps. On ne va pas tourner autour du pot, c'est bien moi qui ai planté vos macelles. Un contrat carrément pourri. Je l'ai su tout de suite. Avant même d'apprendre qui je devais envoyer. Et comme je m'y attendais, il a mal tourné. Non, pour être tout à fait exact, il a tourné encore plus mal que je m'y attendais. À vrai dire, toute cette mission dans le duché était un énorme coup de dé. D'accord, le patron employait des dés pipés, mais voilà, il y avait d'autres tricheurs dans la partie. Sans parler du bazar qui régnait aux tables voisines du tripot bromalois. Un drôle de bordel, avec la manière et des tralala troubadours, mais une grosse chérie quand même. Dès le départ, ça s'est goupillé de travers. D'ailleurs, c'est déjà beau que j'y sois entré dans le duché. Parce que j'ai failli claboter avant même d'y avoir mis le pied. Il existe une espèce de fatalité pour le citoyen d'une grande puissance maritime. Tôt ou tard, il se retrouve en galère. Les pulls à sueur et les bagnards s'échinent sur les bancs de nage, le populo fait le singe dans le gréement, tandis que les rupins se pavanent dans le château de poupe. N'empêche que tout ce petit monde s'entasse sur une coque de noix qui embaume le mâle, la marée et la sentine, et vogue ma jolie pour la gloire de la République. Vous l'aurez compris, toute cette sordide affaire a commencé pour moi sur une galère. Comme d'habitude, ou presque. Les gens bien informés me diront que j'y étais bien loti. Je ne leur donnerai pas complètement tort. En fait, j'étais même trop bien loti à mon gré. J'avais embarqué sur la Frivolezza, la galéas amirale de l'escadre Faleri. Et pas n'importe où. Je faisais partie de la gentilhommerie de poupe. Oui, madame, moi, Benvenuto Gesufal, logé noblement dans le réduit où cadets, officiers et patriciens se marchaient poliment sur les pieds. Dans cette société huppée, je bénéficiais même de l'amitié intéressée de sa seigneurie Céleste Faleri en personne, qui me faisait de temps en temps l'honneur de sa conversation. Le sénateur Faleri goûtait ma compagnie depuis que j'avais eu le bon goût de survivre à mon voyage de retour sur sa précédente galère, moins prestigieuse que la Frivolezza. Après qu'il avait payé ma rançon sur l'île de Seferaïs. Était-ce un privilège? Il fallait quand même se fader cette ocade pour le chant polyphonique et les oiseaux exotiques. Mais le fait est que l'intrigant avait le bras long. Ancienne figure du parti belliciste, Céleste Faleri avait d'abord affronté mon patron, le Podesta Ducatore, quand la situation politique avait dégénéré après la victoire sur le royaume de Récine. Mais sentant que sa faction perdait pied au cours de la guerre civile, il avait changé de camp, appuyé le parti souverainiste pendant les derniers combats, et s'était retrouvé du bon côté de la barrière quand le Podesta avait confisqué le pouvoir. Sa qualité de transfuge lui valait la haine des bellicistes exilés et la méfiance des souverainistes victorieux. Ce qu'il avait mis à profit pour se rendre indispensable auprès du nouveau prince. Son Excellence Leonide Ducatore appréciait qu'il soit détesté par la plupart des vieilles familles, pour sa trahison aux yeux des uns et pour son opportunisme aux yeux des autres. Cela représentait la meilleure des garanties de loyauté. Sans la main du Podesta, le sénateur Faleri aurait fini écharpé par les énervés des deux bords. Voilà qui en faisait un serviteur dévoué. Si dévoué que le Podesta avait jugé bon de le faire élever à la dignité d'amiral par Senatus Consulte. Comme j'étais moi-même le maître espion de son Excellence, cela expliquait aussi la dilection dont m'honorait sa seigneurie Faleri. À travers moi, le vieux beau faisait sa cour au petit cabinet du patron. Ceci dit, je dois bien admettre que je restais un second choix dans les grâces de l'amiral. Au cours de ce voyage, le sénateur cultivait surtout ses relations en caressant le neveu du Podesta, l'ambassadeur Cesarino Razicari. Ne nous méprenons pas. J'emploie bien le terme « caresser » au sens figuré, et non au sens propre. Certes, les mauvaises langues moquaient l'amour immodéré de sa seigneurie Faleri pour les jolis garçons. Et certes, Cesarino conjuguait les charmes de la jeunesse aux promesses, non officielles d'ailleurs, d'hériter un jour du siège à Vinculaire. Mais l'aimable Cesarino, qui venait d'atteindre la vingtaine, était déjà un peu périmé pour le goût délicat de Céleste Faleri. Et puis l'amiral avait des principes et mettait un point d'honneur à ne pas confondre le plaisir avec les affaires. En tout cas, vous l'aurez compris, il y avait du beau linge sur le château de poupe de la Frivolezza. Et ces grands personnages étaient secondés par toute une brochette de Patrice, de Centenier et de Supracomite, la fine fleur des élites tchoudaliennes. Le rang officiel qu'on m'avait octroyé dans cette fringante compagnie aurait pu me donner, en d'autres circonstances, l'agréable impression de péter dans la soie. Mais voilà, au lieu de flatulence, j'avais une gerbe sévère. Je n'ai jamais aimé la mer, à part de loin, pour ses qualités décoratives. Et la mer me le rend bien. Dès que je pose le pied sur une chaloupe, j'ai l'impression que le monde entier est pris de haut mal et que je ne sais plus tenir debout. Dans une cité d'armateurs, de matelots et d'écumeurs, cette fantaisie m'a valu des plaisanteries jusqu'à plus soif. Le maître assassin de la guilde des chuchoteurs, le spadassin qui avait nargué la phalange et passé au fil de l'épée tout le clan Mastigia, se trouvait réduit à l'état de loque nauséeuse au moindre clapotis. Je suis sûr que tous ces fats de la haute, qui en ville se sentaient dans leurs petits souliers sitôt qu'ils me flairaient dans les parages, se trouvaient bien vengés de leur frousse à me voir aussi vert sur les flots. Mes reflux ne me rendaient pas sourd. Sous le baudet du château de poupe, j'entendais les ricanements et les mots d'esprit. N'empêche, le plus humiliant, c'était encore les témoignages de compassion et les bons conseils que me prodiguaient les plus roués. Sur le chapitre, l'amiral Faleri et le gentil Cesarino rivalisaient de prévenance. Les cacteurs, ils osaient me traiter comme une bachelette en sucre. Pour ne rien arranger, nous avions pris la mer bien trop tôt dans la saison, non seulement à mon gré, mais aussi à celui des navigateurs les plus confirmés, ce qui était quand même fâcheux. L'hivernage n'était même pas fini quand l'escadre avait quitté la rade de Tchoudalia, car la guerre du duc Ganelon n'attendrait pas, et il fallait répondre à son appel pour le printemps. Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'était un cadeau de mariage que nous convoyions. La deuxième partie de la dot de la nouvelle duchesse Clarissima Ducatore. Il avait été facile de régler le premier versement au moment des noces. D'un simple trait de plume, le podestat avait épongé les dettes que son cher gendre ducal traînait encore auprès de diverses maisons tchoudaliennes. Mais il avait fallu près d'un an pour rassembler le solde des 500 000 florins que Clarissima apportait dans sa corbeille. D'autant que son Excellence Léonide Ducatore, dans un geste de munificence toute paternelle, y avait ajouté de son propre chef 100 000 florins, pour fêter la naissance de son petit-fils Léoguer de Bromel. Certes, l'ambassadeur Razicari était porteur de lettres de crédit pour une valeur de 200 000 jaunets, mais le duc avait instamment demandé qu'on lui règle une grande partie de la somme en métal sonnant et trébuchant. C'est que les mercenaires n'appréciaient pas trop qu'on les paie avec des billets joliment calligraphiés, surtout quand la plupart ne savaient point leur abaisser. Quant aux fournisseurs et aux vassaux du duché, ils étaient devenus frileux devant les problèmes de trésorerie du suzerain. Bref, le duc Ganelon avait besoin de blindes et du lourd pour mener à bien ses petits travaux d'agrandissement. Voilà ce qu'on lui apportait. 400 000 florins d'or, rubis sur l'ongle. 400 000 florins. C'est tellement énorme que ça donne le tournis. On ne parvient pas à se représenter une galette aussi démesurée. Un florin au cru de la main, c'est le soleil qui illumine la paume. Ça miroite comme un faux espoir et ça pèse déjà son poids de liberté et de plaisir. 10 florins font un petit trésor. Rien qu'à les faire glisser un à un entre le pouce et l'index, on éprouve le vertige du flambeur prêt à miser sa réputation et sa vie dans une partie de cartes. 100 florins, c'est déjà trop pour une bourse. Ça fait craquer le cordon. Ça leste le poing comme une dague de guerre. Et pour palper tant d'or en une seule fois, il faut souvent traîner un autre genre de casserole dans son escarcelle. Alors, 400 000 florins, rendez-vous compte. Le chiffre ne veut plus rien dire. Il faut le voir pour le croire. Un mur de flouze, de la béatitude en barre, l'épiphanie du lucre. C'est bien simple. Dans l'Escandola, la soute personnelle de l'amiral, on avait entassé 28 coffres gavés à ras-bord, 28 coffres. Et attention, pas des cassettes de boutiquier, pas des malles pour dames ou des boîtes à bijoux. On cause de meubles en chêne massif bardés de ferrures, pleins comme des tonneaux, que deux solides gaillards ne parvenaient à soulever qu'en risquant le tour de rein. Voilà le paquet qu'on devait livrer à son Altesse Ducale. Même cadenassé dans ses cofios, eux-mêmes arrimés à fond de cale, ce pactole rayonnait à des centaines de lieues à la ronde. La frivoletza cinglait les flots tel un astre rutilant, prête à ensorceler tout ce que l'océan éridien comptait d'écumeurs, de forbans et de pirates. Et voilà pourquoi on m'avait convié dans la croisière. Comme il s'agissait d'effrayer les requins du grand bain, mon patron avait estimé que je faisais un épouvantail plutôt présentable. Évidemment, le grand homme ne me surestimait pas au point de croire qu'à moi tout seul j'aurais pu mettre en déroute une flottille de gueux de mer. La frivoletza se trouvait escortée par 10 galères de combat, chargées jusqu'au tillac de phalangistes. Une enseigne par navire. Un bon millier de soudards en chausses rayées, barbutes et demi-armures d'acier, commandés par mon ami Velado Fruga, le gonfalonier du régiment Casahorca. Don Velado avait d'ailleurs lui-même une gueule de pirate. La guerre contre Racine avait boursouflé son mufle de glorieuses brûlures qui aurait fait passer mon nez cassé, mes balafres et mes dents en or pour les coquetteries d'un mirliflore. Le podestat n'était pas tout à fait sûr de la loyauté du gonfalonier, mais comme Velado avait fait partie des prisonniers rapatriés par Céleste Faleri, il avait parié sur la gratitude du capitaine pour l'amiral. En fait, on touchait là à la raison véritable de mon enrôlement sur ce damné rafio. 28 coffres remplis d'or à craquer. Cela avait de quoi rendre fou n'importe qui, à commencer par les grands officiers chargés de les convoyer. Je n'étais pas là pour défendre la dot ducale contre l'ennemi, mais pour montrer l'écrou à tous les loyaux serviteurs de l'État embarqués dans la même galère. Le savoureux de l'affaire, c'est que le podestat avait fait d'un maître truand son trésorier. Il m'avait même très officiellement nommé grand argentier de l'ambassade. Quoi qu'en disent les mauvaises langues, le patron avait du génie. Je dois admettre que, sur le moment, ça ne sautait pas aux yeux. Nous n'avions pas dépassé Castelonegro, qui est le fort défendant l'accès au port de Tchoudalia, que je me sentais déjà barbouillé. Quand on a abordé la haute mer, j'ai eu l'impression d'avoir trinqué au vin hémétique, et mes petits désordres gastriques m'ont valu de passer pour la chochotte de service. « Vous n'avez toujours pas le pied marin, cher ami ?» me gourmandait gentiment l'amiral Faleri. « Vous vous êtes pourtant refait une santé depuis notre dernière traversée. Ne vous en faites pas, Don Benvenuto, » m'encourageait Cesareno. « Le voyage ne sera pas long. Si le temps est favorable, nous toucherons Longomore dans 5 jours. » Le jeune patricien parlait d'expérience. L'année précédente, il avait escorté sa cousine Clarissima en Bromel pour la présenter à son nouvel époux. N'empêche qu'il ne me remontait pas le moral, le gracieux seigneur. 5 jours entiers avec le monde qui penche, la cervelle qui ballotte, l'estomac qui clapote et le cœur au bord des lèvres, c'était un supplice bien plus raffiné et potentiellement aussi sale qu'une bonne dérouillée infligée dans les règles de l'art. Au moins, quand on vous fait votre fête, vous pouvez avoir la satisfaction de rendre les coups. Mais sur une coque de noix, secouée comme l'olivier congol, contre qui riposter? Parfois, il me prenait l'envie de démolir quelques portraits un peu trop narquois. Mais je n'avais même plus le nerf pour cogner. Répandu, Don Benvenuto. En guise de consolation, ne me restait plus qu'à baptiser le grand pré avec mon bol alimentaire. Quand nous avions pris la mer, Tchoudalia souriait dans un pâle soleil de toutes ses tours et de tous ses palais. Si les nuits étaient encore fraîches, il faisait assez doux dans la journée, du moins tant que le vent du large ne soufflait pas trop fort dans les ruelles. Bien sûr, sitôt que nous avions levé l'ancre, les frimas étaient accourus à notre rencontre. L'escadre avait d'abord navigué vers le nord, en conservant la côte en vue sur bâbord. On avait essentiellement vogué à la rame, vent debout, et tout le monde se gelait sévèrement les miches, y compris chez les officiers du château arrière. Pour abriter la poupe d'une galère, il n'y a qu'une armature de bois supportant un pavillon qu'on appelle bizarrement le carrosse. D'autres que moi vous diront que cette tonnelle a de l'agrément pour naviguer à la belle saison, quand le soleil tape sur la grande bleue. Mais au tournant de l'hiver, lorsque la bise cisaille l'abri avec ses courants d'air tout halenés de rasoirs et d'embruns, même les plus pharaons attrapent la goutte au nez et claquent des dents. Avec ce méchant vent, la houle était formée en grosses vagues verdâtres dont la seule vue vous gelait jusqu'aux os. Les étraves tapaient dur dans cet océan rétif. Mais l'amiral, le pilote et le quartier-maître considéraient ce milieu hostile avec une franche inconscience. Ils appelaient cela du temps frais et se réjouissaient de notre chance. La chance avait tourné avec nous quand on avait passé le cap Scorsalto, la péninsule la plus septentrionale du continent. Au-delà, en direction du nord, s'ouvraient les vastitudes du grand large, avec, loin derrière l'horizon, l'archipel de Récine, où j'avais laissé quelques dents et pas mal de mauvais souvenirs. Mais notre destination était à l'opposé. Il nous fallait contourner la grande presqu'île rocheuse et ses abords mousseux de brisants pour redescendre le littoral vers le sud-ouest, en direction des îles Maroises et de l'Anse de Bromel. Le franchissement du cap était devenu une lutte de tous les instants. Les vents venus des quatre coins de l'horizon s'étaient donné rendez-vous sur cette mer rageuse pour siffler dans nos gréments et malmener les voilures. Les courants traîtres qui heurtaient la quille s'ingéniaient à courir dans le sens inverse et crêtaient les vagues d'une écume coléreuse. Je passerai pudiquement sur mes petites défaillances au milieu de ce cotillon. Dans mon malheur, je me disais qu'on n'a plus peur d'y passer quand on est déjà mal à en crever. « Temps très frais !» appréciait l'amiral avec un optimisme écœurant. « Cela se calmera quand on aura passé le cap. » Il n'avait pas tort, du moins au début. Une fois la croupe rocheuse du Scorsalto derrière nous, la navigation s'était faite moins éprouvante. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on avait connu une accalmie, mais nous avions vent arrière et la houle s'est faite plus régulière. Il serait exagéré de noter qu'elle berçait les navires, sauf à comparer la grande tasse avec une marâtre qui secoue son baigneur en nourrissant des projets infanticides. Mais enfin, le tangage s'était fait presque cadencé. Même moi, je sentais un léger mieux. Au lieu d'être pris de vomissements n'importe quand, j'allais dégorger à intervalles réguliers. Dans ces conditions, difficile malgré tout d'admirer le paysage. Au troisième jour de navigation, la côte que nous longions s'est peu à peu affaissée jusqu'à former un morne panorama. Les marécages et les lagunes de la Fébrissème, une région malsaine autour de l'estuaire de la Listrelle, aux marches de la République et du comté de Belle-Estance. Sur des lieues et des lieues, les boues poussées par les bras du fleuve venaient se mêler au littoral qu'envasaient les marées. Du continent, on ne voyait plus qu'un horizon maussade de plantes d'eau, où les îles basses émergeaient à peine des étangs et des marais salants. Ces interminables marigots stagnaient dans un royaume de moustiques et de fièvres. Un coin de pays revendiqué officiellement par la République de Tchoudalia comme par le comté de Belle-Estance. Mais que nul ne se donnait le mal d'occuper car il n'y avait que du palu à y gagner. Malheureusement, ce désintérêt général n'était pas sans poser problème. Ce marécage accueillait un autre genre de sangsues, qui bravait les fièvres pour échapper aux navires de guerre ou monter des affûts. La Fébrissème était un nid de forbans tristement redouté. Les navires pirates s'embusquaient souvent dans les lagunes pour fondre sur le chaland qui cabotait trop près de la côte. La victoire de la République sur la flotte du chat Eurymaxas 3 ans plus tôt avait certes porté un coup sévère aux raïs réciniens, mais la place avait été prise par la piraterie tchoudalienne. Plusieurs maisons nobles chassées par la guerre civile s'étant tout naturellement reconverties dans la guerre de course. Du côté du duché, on trouvait aussi des capitaines peu scrupuleux, venus d'Anga de la Petite ou des ports de Moreuk et de Vekinsberg, qui, de temps à autre, arrondissaient les bénéfices du commerce avec un abordage ni vu ni connu. Notre puissante escadre était plutôt du genre à faire fuir le menu fretin des écumeurs. Mais l'or que nous convoyons pouvait attirer une ligue de bellicistes exilés. Au moment de la victoire du podestat sur ses ennemis politiques, les Surmatici avaient réussi à s'enfuir avec plusieurs galères quand ils avaient été repoussés hors du port. Cette flottille d'enragés, depuis 2 ans, attaquait nos navires de négoce, et l'amiral ne tenait pas à leur prêter le flanc si jamais ils nous guettaient depuis la côte. Céleste et Faleri avaient donc décidé d'abandonner le continent et de mettre le cap sur Mélesme, la plus grande des îles maroises. Une fois en vue de l'archipel, il aurait viré plein sud et nous serions entrés dans l'anse de Bromel, au fond de laquelle se trouvait Longomore, notre destination. La précaution prise par sa seigneurie Faleri était frappée au coin du bon sens. Mais elle ne me remplissait pas d'aise, loin s'en faut. Pour gagner Mélesme, depuis la Fébricem, il fallait une bonne journée de navigation en haute mer. À perte de vue, les flots brassaient leur méchanceté froide et grise dans une atmosphère où alternaient grains brusques et aigres rafales. Le plus dérangeant, ce fut de constater au bout de quelques heures que je n'étais plus le seul convive incommodé. Et il ne s'agissait pas seulement du mal de mer. Les marins considéraient avec une inquiétude de plus en plus palpable le ciel vers le nord-ouest. Une ligne laiteuse dessinait encore l'horizon, mais les nuées qui la couvraient se chargeaient de suie et d'anthracite presque violacées. Ces grosses fumées accouraient en roulant leurs abdomens tuméfiés au-dessus d'une houle qui prenait des nuances de fer. « Le vent est en train de forcir !» crut bon d'insister le supracomite d'Aneggiatello. Ce qui n'était pas peu dire, vu la façon dont il faisait claquer les voiles. Pour la première fois, cet inconscient de Faleri parut chiffonné. Sans doute fallait-il gagner un mouillage abrité, et cela le contrariait de dérouter. « Il va falloir revenir vers le continent. Nous pourrons jeter l'ancre à Glenn-le-Comte et attendre que le gros temps soit passé. » Mais ce fut au tour de Cesarino de prendre un air chagrin. « Ce port appartient au comté de Belle-Estance, » a-t-il observé. « Or, le comte d'Odinel est parent avec l'épouse répudiée de Ganelon. Je ne suis pas absolument certain de sa loyauté au duc. » Ayant opiné du chef, l'amiral a haussé les épaules. « Dans ce cas, gagnons quand même Mélesme. Nous nous abriterons dans la baie de Caméliogre. » Cette fois, ce fut le supracomite qui afficha une expression constipée. Les eaux de Caméliogre sont protégées du vent, mais la côte alentour est traîtresse. Par mauvais temps, on pourrait être drossé sur les rochers. C'est sur notre route, éluda un peu légèrement Faleri. Que toute la chiourme se mette aux avirons. Nous y arriverons avant la tempête. Envoyez la flamme sur l'arbre de Mestre et donnez l'ordre à l'escadre. Cap sur Caméliogre. Le pavillon ainsi hissé sur le grand mât signifiait que la galéasse amirale avait un commandement à transmettre, ailé de navire en navire. Mais la bise grondait si furieusement que les crieurs eurent le plus grand mal à faire passer le message. Par précaution, toutes les voiles furent ferlées, sauf celle de misaine, tandis que les deux quartiers de la chiourme se mettaient à nager de concert. Hélas, toutes ces mesures ne valaient pas grand-chose face à ce qui se ruait sur nous. Ça ou cracher contre le vent, c'était du pareil au même. Au-dessus des mâts, les cieux devenaient noirs. On aurait cru que la nuit, pleine de zèle, nous tombait sur le rable avec la tendresse d'un coupe-jarret. Et puis, malgré tout le vacarme que produit un navire chargé de 240 rameurs, plus autant de soudards et d'hommes de pont, ce fut la rumeur abyssale de la tourmente qui nous glaça les sangs avant même que nous ne soyons frappés. Un grondement terrible. L'océan soulevé en cataracte galopante nous rattrapait depuis le nord-ouest. Les trombes de pluie s'y mêlaient à l'enroulement des lames dans une nuée aussi véloce que féroce, qui brouillait les limites entre le ciel et la mer. « Grand largue ! Grand largue !» hurla le supracomite sans même attendre les ordres de l'amiral. Et puis, l'ouragan fut sur nous. J'eus l'impression qu'on venait de me jeter par-dessus bord. Un déluge glacé, gentiment assaisonné de grésil, nous cingla presque à l'horizontale dans un mugissement insensé. Des montagnes d'une eau quasiment métallique, frissonnantes de rage et de rafales, disloquèrent en un instant l'organisation de l'escadre. Planqué sous la tente du carrosse qui battait comme un tambour, j'étais plus transpercé de pluie que si je m'étais hissé au sommet de l'arbre de Mestre. On n'y voyait plus à une portée de flèche. Ce n'était peut-être pas plus mal, car parfois, dans une trouée au milieu des trombes, on apercevait la proue et l'éperon d'une galère qui planait horriblement au niveau de nos vergues. Ou bien un instant plus tard, on découvrait en vue cavalière le tillac et les bancs de nage d'un bâtiment qui roulait entre deux falaises mouvantes. On fuyait presque vent arrière, poussé par les bourrasques. Des déferlantes monstrueuses bouillonnaient à notre poursuite, telles des léviathans voraces qui cherchaient à engloutir nos petits bateaux. Quand une lame nous rattrapait, la galéa s'était soulevée par le cul, et du haut du château de Poupe, je découvrais la dégringolade vertigineuse des couroirs et des bancs de nage, inclinés comme un long escalier, tandis que le château avant et l'éperon piquaient tout droit vers un gouffre liquide. Puis, la crête de la vague balayait les bords, crachant son écume au passage, et soudain tout le bâtiment, dans d'horribles craquements, vacillait avant de basculer en arrière. Fatalement, le château de Poupe s'effondrait, tandis que la proue remontait et se dressait loin au-dessus de nos têtes. L'énorme masse d'eau qui nous dépassait, en nous faisant dinguer dans le creux qui la suivait, donnait l'impression qu'on repartait à reculons, alors qu'on filait toujours à une vitesse déraisonnable. Je serais bien incapable de dire combien de temps ce gigantesque tape-cul nous a saboulés. Fouetté par le vent et les paquets de mer, rincé jusqu'à la moelle, je m'accrochais à ce que je pouvais, les muscles gourds de froid et de trouille. L'eau déferlait parfois si torrentueuse que je croyais me noyer. L'instant d'après, j'avais l'impression de planer à une altitude invraisemblable, catapulté dans les airs avec toute la frivolezza et ses 500 hommes comme le projectile d'un trébuchet. Il paraît qu'une vieille barbe a jadis écrit qu'il existait trois types de bons hommes. Les vivants, les morts et les marins en mer. Si j'avais croisé ce comique dans une taverne, je crois que j'aurais été partagé entre la tentation de lui payer un pot et celle de lui faire passer le goût de la formule. Parce que c'était foutrement bien vu. Agrippé à mon bout de bois comme un pou sur un cheval fou, je n'étais plus ni vivant ni mort, mais juste assez en vie pour me sentir interminablement crevé. Le soir tombait pour de bon quand la pluie a lâché ses dernières hallebardes et s'est réduite à un crachin vindicatif. On y a vu un peu plus clair, et cela n'avait rien de réjouissant. Le vent soufflait toujours à des cornets des bœufs, et la mer était plus bouleversée que jamais par des creux abyssaux, aussi loin que portait le regard, c'est-à-dire à une distance qui demeurait médiocre. La frivolezza était seule sur l'océan démonté. La tempête avait complètement dispersé l'escadre. Pour défendre l'or de Tchoudalia, nous ne pouvions plus compter que sur nous-mêmes. Mais à vrai dire, au milieu de tout ce tremblement, c'était le dernier de mes soucis. Pour peu qu'elle ait amené le beau temps, je crois que j'aurais même accueilli à bras ouverts toute une flotte de pirates. D'autant que la situation ne donnait pas l'air de s'améliorer. Frigorifié, malade, assourdi, il me fallut quelques instants pour comprendre que les cris qui remontaient depuis la proue ajoutaient une louche d'affolement aux affres générales. Dans ce cataclysme liquide, il paraissait assez baroque que des originaux s'inquiètent de feu. Et puis je finis par saisir qu'on apercevait des lumières droit devant. Soit le fanal d'une tour réelle nous signalait un danger, soit une bande de naufrageurs nous conviait à leur sauterie. Dans un cas comme dans l'autre, nous étions en train de nous précipiter sur une côte. Et s'il s'agissait de l'île de Mélesme, le risque était grand de nous fracasser sur ses falaises. Pour la première fois, je vis l'amiral arborer une mine aussi foireuse que la mienne. Mais il se reprit aussitôt et hurla de virer pour naviguer auprès. Comme je ne comprenais goutte à ce sabir de marin, je ne saisis pas tout de suite le sel de la plaisanterie. Chez les officiers et chez les gabiers, j'eus toutefois l'impression que cet ordre sonnait encore plus terrifiant que les récifs qui nous guettaient. Et puis quand l'équipage s'est lancé dans la manœuvre, j'ai enfin pigé. Pour échapper à l'échouage, Céleste et Falerie avaient commandé de revenir quasiment vent debout, à contre-courant des déferlantes. Il fallait virer à la rame. Non seulement les bourrasques étaient trop fortes, mais elles connaissaient des sautes dangereuses, presque supportables quand on chutait au bas des vagues, furieuses quand on rebondissait au sommet. Et si on ne voulait pas chavirer, il fallait rester à l'oblique du courant quand une lame déferlait, puis profiter du creux pour présenter le travers du navire au déchaînement avant l'arrivée de la suivante. Je ne compris le péril où nous mettait cette voltige que quand la chiourme et l'équipage entrèrent en action. Mais tous les forçats et tous les matelots savaient, eux, avant même de se lancer dans ce numéro, qu'il ne leur restait peut-être que quelques instants avant que la galéasse ne soit retournée. Un bazar pareil, ça ne se manœuvrait pas comme une barquerolle. On commençait à glisser sur le cul quand la chiourme entreprit de souquer sur tribord pour présenter le flanc en biais à la vague suivante. Lorsqu'on se mit à remonter par l'arrière, j'eus l'impression que mon estomac, mon foie, ma rate et la moitié de mes intestins se bousculaient pour me forcer l'ésophage. Non seulement on tanguait, mais le roulis s'invitant dans le bal, on tanguait de travers, et je me faisais l'effet d'une poignée d'abats secouée dans un cornet à dés. Le navire fut soulevé de guingois. Une rangée d'avirons hors d'eau, la poupe en l'air, les rambardes du château avant à demi submergées. Et puis survint l'instant suspendu avant que la frivoletza ne franchisse la crête écumante et bascule au fond du tourbillon qui s'ouvrait sur nos arrières. Au plus haut du tangage, le vent se faisait effroyable. Une rafale s'engouffra sous la tente du carrosse et d'un seul coup en arracha la banne. Soudain, je n'avais plus qu'un ciel de fin du monde au-dessus de la tête, dans les hurlements triomphants de la tourmente. Et je vis la catastrophe se nouer devant moi avec la netteté d'un mauvais rêve. Soulevé comme un spectre de brocart tourbillonnant, la toile de tente s'envola, tout droit, pour se prendre dans le gréement et la voile de misaine. C'était précisément au moment où le navire basculait sur le revers de la vague, en imprimant à la mâture un balancement brusque contre le sens du vent. L'arbre de mestre ne tint pas le choc. Il émit un grincement torturé, puis il cassa. Les hurlements des hommes se mêlèrent à ceux de la tornade quand le grand mât s'effondra avec son antenne, sa voile et ses câbles. Ils tombèrent de biais, en partie sur le tillac, en partie à l'extérieur, en pulvérisant la main courante du couroir et en brisant plusieurs avirons. Cela accentua la gîte du navire tout en bloquant sa manœuvre, alors que la coque s'enfouissait au creux de la vague. Avant que le moindre ordre soit donné, des matelots et des argousins se précipitèrent munis de haches pour trancher les drisses et dégager la galéasse de ce poids mort. Ils s'activaient comme des fous au-dessus du bastingage détruit et des flots furieux, et abattirent un travail prodigieux à toute allure. Mais la tempête était sans pitié. L'arbre de mestre glissait dans le bouillon quand la lame suivante dressa sa muraille liquide au-dessus de nos têtes et prit la frivoletza complètement de travers. La vague ne nous engloutit pas, elle nous souleva tout en inclinant le bâtiment vers bâbord, et plus nous montions, plus nous penchions. Tout ce qui avait échappé au paquet de mer et qui n'était pas arrimé se mit à dégringoler vers la gauche, les hommes s'accrochant comme ils pouvaient aux rambardes et aux drisses. Le tillac semblait déterminé à oublier sa vocation de pont pour devenir un mur, tandis que l'arbre de trinquet, le mât rescapé de la proue, s'inclinait presque à l'horizontale. Un flux bouillonnant jaillit par les tollets bâbord, rinçant les bancs de nage et les galériens, tandis que la crête de la vague sourlait cruellement au-dessus du bastingage tribord. Les hurlements horribles de plusieurs hommes passés par-dessus bord furent étouffés le temps de souffler une chandelle. J'eus la certitude que la galéasse était en train de chavirer. Ce fut à ce moment que j'entendis une musique aussi étrange que terrifiante. À peine audible au milieu des craquements du navire, du rugissement du vent et du grondement de la houle. Elle se mit à sonnailler à côté de moi plutôt que sous moi, car j'en étais séparé par un plancher en train de giter sévèrement. Dans l'escandola, sous le château de poupe, 400 000 florins tintinabulaient joyeusement en se retournant dans leur tirelire. Dès que le navire aurait la quille en l'air, il était presque assuré que 28 coffres chargés de métal précieux romperaient leurs attaches et viendraient s'écraser de l'autre côté de ces planches où je patinais désespérément pour ne pas glisser vers les flots. Si les lattes cédaient sous cette avalanche, non seulement j'allais me noyer, mais en plus je serais écrabouillé et entraîné tout droit par le fond. J'allais crever comme un despote décadent, enseveli sous un déluge d'or. en emportant avec moi les calculs politiques du podestat et en laissant toute la soldatesque impayée sur les bras du duc de Bromel. Ça peut paraître cocasse, dit comme ça. Quoi de plus ridaire, pour un archisuppo, que de canner sous le ganeau? Mais sur le moment, la blague ne fut pas du tout à mon goût.